Day Trading, le podcast. Se protéger des arnaques, troisième partie. Ouh là 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 là. Bien le bonjour à tous, bien heureux d'être parmi vous encore une fois. On est sur une lancée. Écoutez, quand on est rendu à faire trois parties sur un sujet, c'est parce que le sujet d'un nous passionne, mais comme le trading en général, mais ce sujet-là, ça a l'air que nous passionne. Ce qui est particulier, c'est que quand on a commencé à travailler les idées, au début, je disais, hey, on n'aura pas assez de temps. On n'aura pas assez de matériel, on va manquer de stock, on n'a rien à dire, puis ça a déboulé, puis c'est incroyable comment on peut ressortir des choses. Toujours en compagnie de François, j'espère que tu es en forme
top
aujourd'hui,
shape,
camarade.
Top shape. Puis oui, c'est ça, on pense tout le temps à faire un ou deux podcasts, mais là, c'est rendu, celui-là, je ne sais pas si c'est notre deuxième ou notre troisième, mais il y a du matériel, on pourrait quasiment y aller à 4-5, mais bon, on va essayer de rester concis parce qu'il y a plein d'autres sujets.
Oui, puis tu en avais annoncé un la dernière fois, donc on va essayer de travailler ça aussi. Donc, pour commencer directement dans le sujet, j'aime bien faire un retour. On a fait un retour la dernière fois. Donc, on va faire un retour sur le dernier point qu'on a discuté la dernière fois, qui était le wash trading. Et les choses que j'avais envie de partager qu'on avait omis la dernière fois, dans le fond, c'est lesquels les marchés qui sont les plus propices à ça, tu sais, à se faire, à ce qu'une grosse institution puisse influencer. Moi, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les penny stocks. Qu'est-ce que tu en penses, François?
On va commencer avec un ouf. Ceux qui me connaissent, les penny stocks, je ne suis pas très amateur de penny stocks. J'aime bien les penny stocks seulement pour la spéculation court terme, mais il y a beaucoup de... C'est pas moi qui l'invente, là, c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de... Le fameux pump and dump dans les penny stocks. Donc, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Et puis, le monde, malheureusement, se font prendre. Mais la pas du gain, hein. Acheter un titre à 2 cents et le revendre à 1 piastre, c'est très alléchant. Tu sais, dire j'ai acheté 50 000 actions à 2 cents, puis si ça monte juste à 1 $, je vais faire 50 000 $. Mais bref, il y a beaucoup il y a beaucoup de manipulations. Tu sais, les fameux OTC, les pink sheets, j'imagine que vous l'avez tous vu, mais sinon, ceux qui ne l'ont pas vu, regardez le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, c'est exactement ça. Dans le temps, il faisait ça sur papier, mais maintenant, ça se fait un peu... ça se fait électroniquement. Il n'y a rien qui a changé, juste l'outil pour le faire. Sinon... Tantôt, tu parlais aussi des la fameuse crypto-monnaie. Donc, vas-y, toi, qu'est-ce que t'en penses, Patrick?
Ben, c'est ça, c'est que ben moi, ce que je pense, c'est que dans le fond, si le produit qu'on transige n'a pas un gros volume, tu sais, comme le market cap, ou il est tout petit, si on veut, parce que des cryptos... T'sais, le Bitcoin, on dit « Ah, oh, wow, c'est gros le Bitcoin », mais c'est tout petit là, si tu compares à d'autres marchés. Là, c'est vraiment pas... Si tu compares à l'euro, le Bitcoin, c'est miniature. Là. Donc, mais il y a des cryptos, il y en a des centaines et des centaines. Fait qu'il y en a qui sont encore plus petits. Donc, c'est facile pour ces grosses institutions-là d'influencer avec leur technique. Puis des fois, ce qu'on voit aussi, que ce soit le crypto ou autre chose, ou peu importe le produit, mais ce qu'on entend parler, le stop hunting, les chasseurs de stop. Donc, quand on fait de l'analyse technique, lorsqu'on trade, mettons, un triangle, ben c'est sûr que tout le monde a une bonne idée de y est où notre stop. Là. On place notre stop pas mal tout à la même place en général. En tout cas, moi, personnellement, je suis souvent plus loin que François. François est plus serré que moi dans ses stops, mais François fait plus d'argent aussi quand il fait ça.
Oui, des fois, je me fais un peu comme beaucoup de monde. Je me fais stopper, puis ça revient de bord, puis mot t'as dit, ça me fâche. Mais sur la long run, c'est ça. On protège notre capital.
C'est ça. Fait que ce que je voulais dire, c'est que le stop hunting, dans le fond, c'est que ces institutions-là vont être capables de, dans le fond, temporairement passer des ordres à l'envers de ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent acheter, ils vont vendre, ça va faire descendre le prix. Puis là, en dessous du prix, il y a tous les stops qui attendent d'être touchés. Fait que si ces stops-là, ils attendent d'être touchés, puis le prix descend là, la banque, après ça, elle a une liquidité qu'elle peut utiliser pour acheter, puis là, le prix se met à remonter. Fait que ça n'est une autre façon, dans le fond, les stop hunting. Fait que ça, c'est pas... Puis il y a des gens, des fois, ils disaient « Ah, c'est le courtier qui va me sortir. » Puis c'est pas nécessairement le courtier qui va te sortir. C'est les grandes institutions qui savent exactement quoi faire. Puis tu as parlé des robots, ils le font avec les robots. Là. C'est des robots qui font ça. Donc, elle a un petit peu l'arnaque, mais c'est une technique. Puis, donc, il faut être conscient, puis il faut assez se protéger. Puis on se protège en gardant nos positions plus petites, en gardant ou en éloignant un petit peu notre stop-loss ou en se positionnant différemment. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on revienne, pour qu'on soit un petit peu plus précis sur ce qu'on a comme partagé au dernier épisode. Et ça donne quand même une idée de ce qui se fait. Donc, soyez prudents, puis surtout, là, gardez l'œil ouvert. Puis, gardez, tu sais, soyez curieux de ce qui se passe dans le marché pendant que vous tradez. C'est vraiment intéressant. Puis, gênez-vous pas pour lire là-dessus, pour vous documenter. Le plus qu'on en sait, le mieux que c'est, selon moi. Donc, on va passer à la prochaine possibilité. Donc, on peut, où est-ce qu'on peut se faire arnaquer? Bien, il y a des fois à travers des gestionnaires de fonds. Hein, des gestionnaires de fonds, c'est toujours honnête, ça. C'est toujours des bonnes personnes qui veulent notre bien. Donc, il y a plusieurs... Il y a plusieurs possibilités, mais tu sais, l'exemple qui vient tout de suite, c'est Bernard Madoff. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Bernard Madoff, dans le fond, à Wall Street, qui était quand même une sommité pendant des décennies. Il a utilisé la fraude de Ponzi. Hein? Donc, je ne sais pas, François, si tu veux l'expliquer.
Je vais te laisser l'expliquer, mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Madoff, son historique, il était très reconnu dans le milieu. Il a été président quand même de la... bourse Nasdaq pendant très longtemps. Donc, c'était quelqu'un de très respecté, connu. Et puis, pour ceux qui voudraient un peu connaître un peu sur lui, aller sur Internet. Mais sinon, ils ont sorti un film, documentaire. Et puis, il s'est fait condamner à 100 aux États-Unis. Il niaise pas avec ça, là. À 150 ans de prison. Et puis, c'est ça. Je crois... Écoute, à vérifier, là, je crois qu'il est mort. Il est-tu mort? Continue, je vais faire mes recherches sur Google.
Ben c'est ça, c'est que dans le fond, il amenait tout le temps des rendements stables, des gros rendements vraiment impressionnants, année après année, avec une stabilité. Le portefeuille ne baissait jamais. Puis dans le fond, la fraude de Ponzi, ben, c'est quoi? C'est qu'il utilisait les dépôts des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs qui voulaient retirer leur argent. Parce que dans les faits, tout ce que tu reçois, c'est un papier avec des chiffres dessus. Tu sais, ça te dit ton compte. Ben là, à l'époque, c'était un papier. Là, aujourd'hui, c'est direct sur Internet, mais c'est un chiffre. Tu te dis, OK, ton compte, il est rendu à temps. Fait que là, lui, dans le fond, il falsifiait tous ces papiers-là. Puis ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y avait vraiment... il y avait son bureau, puis il y avait un autre étage où c'était l'autre bureau avec toute sa magouille qui se passait par là. Puis dans le fond, ça devait être complexe. Ça devait être énormément complexe, là, tenir tout ça ensemble. Et à un moment donné, ben là, je sais pas dans quel contexte il s'est fait prendre, mais quand il s'est fait prendre, tout ça a planté. Donc ça, c'est une façon... qu'on peut se faire avoir. Mais là, avec l'exemple de Madoff, c'est l'exemple classique, là, dans le fond.
C'est ça. Madoff, si je me souviens bien, il s'est fait... En passant, il est mort, j'ai vérifié. Il est mort le 14 avril, donc c'est quand même assez récent. Triste fin, mais bon, je dis triste fin. Il a quand même été responsable de beaucoup de drames aux États-Unis. Mais bref, le Ponzi Scheme, où ce que le monde se font souvent prendre, c'est lorsque, parce que les autres, tant qu'il y a de l'injection d'argent dans leur scam, il n'y a pas de problème, mais c'est quand le monde commence à vouloir retirer de l'argent. Et puis, je crois que c'est avec la chute des marchés en 2008, le monde a commencé à vouloir retirer de l'argent. Puis là, lui, son scheme, là, son Ponzi scheme, ça ne marchait plus bien, bien. Fait que là, c'est ça, il a été condamné, je crois, en 2009. Si les marchés avaient toujours monté après 2008, puis il n'y aurait pas eu le fameux crash qu'on a connu en 2008, il serait probablement encore en train de rouler sa bosse, là. Fait que, bref, un Ponzi scheme, c'est un château de cartes, ça devient plus viable quand le monde commence à vouloir retirer leur bille du jeu. Donc...
parce qu'il n'a plus d'argent, il n'a pas. D'un, lui, il vit avec ça, puis probablement très, 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 très bien, là, tu sais, il ne se prive pas. Puis les rendements que tu as annoncés, 20 % par année, mettons, stable pendant 10 ans, ben c'est un méchant montant, là, avec l'intérêt composé. Donc, toi, tu t'attends à ce que ton montant se soit décuplé. Il n'y en a pas. Fait que ça s'écroule. Comme tu dis, le château de cartes s'écroule. Il y a d'autres comptes aussi qu'on voit, qu'on peut rencontrer des fois, si vous voyez, mais ce qu'ils appellent des comptes PAM, P-A-M-M, là, qui est Percentage Allocation Money Management, c'est qu'il y a certains courtiers qui vont permettre, puis moi, je n'ai jamais été vers ça, là, j'ai juste, donc c'est juste à titre d'information que je vous le donne, je ne suis pas un expert là-dedans, mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que moi, je pourrais, dans le fond, avoir mon compte chez mon courtier, puis toi, François, tu pourrais déposer ton argent puis le lier à mon compte, puis c'est moi qui va trader ton argent, là, tout simplement. Puis j'ai comme l'impression, je sais pas c'est quoi les qualifications là, pour arriver à le faire, mais ça ouvre des portes pareilles. Là. Dans le fond, tu sais, je peux m'amuser avec ton argent, tu sais, mais qu'est-ce qui, où je veux m'en aller avec ça, où cet exemple-là, c'est que les signes, dans le fond, c'est quoi les signes qu'il faut qu'on regarde, dans le fond, pour se protéger de ça? C'est quand quelqu'un nous sollicite, première des choses, tu sais, c'est sûr que si c'est un conseiller en placement qui est régi par l'autorité des marchés financiers, des valeurs mobilières, tu sais, ça devient comme un peu rassurant, là, tu sais, c'est le minimum, du moins au Québec, là, tu sais, de demander. Mais quelqu'un, tu sais, qui te donne des rendements gonflés, qui sont impressionnants, année après année, tout le temps, des frais de gestion excessifs que tu peux avoir ou des frais cachés.
C'est ça. Excuse de te couper, mais présentement, la mode, moi, j'ai un ami courtier, c'est le même. Je ne sais pas si c'est rendu standard. Là. Je ne suis pas un gestionnaire, je n'ai pas de client là-dessus. Mais maintenant, la mode, c'est de... Ben, la mode. En tout cas, lui, il fait ça, puis moi, je trouve ça super honnête. Lui, il ne prend pas de pourcentage de rendement si... un courtier, généralement, que vous gagnez de l'argent ou que vous, qui perd de l'argent, il va prendre un 2,5% de frais de gestion, mettons. Qu'il a fait de l'argent ou pas, si vous avez un compte de 100 000 $ mais il va prendre son 2,5% qu'il a fait de l'argent ou pas. Sauf que la personne que je connais, lui, il prend seulement des commissions s'il fait de l'argent. Donc, c'est une façon de voir un peu, pas de voir s'il y a de l'arnaque, c'est la norme de prendre des frais de gestion. La plupart des courtiers font ça. Sauf que moi, avoir une somme quand même importante, aller chez un courtier ou un négociateur, puis il vous dit, évidemment, il faut tout faire nos due diligence, il faut faire nos devoirs, est-ce qu'il y a toutes ces licences, l'AMF, pour négocier tout ça, gérer notre argent. Mais une fois que... Puis s'il a été audité par des firmes comptables pour voir ses rapports, donc tout le kit. Mais si en plus la personne vous dit, moi, je ne prends aucun frais de gestion, seulement, puis je pense qu'ils ont des échelles, là, je prends seulement des frais de gestion si on fait de l'argent. Moi, là, j'aime ça. J'aime ça, puis ça m'attire plus, puis je me dis, Colin, comment je peux me faire arnaquer? Parce que tu sais, des fois, oui, viens ouvrir un compte avec nous, puis... La personne, elle s'en fout, là. Elle va faire 2,2, entre 1 et 2 % à la fin de l'année, pareil, qui a fait de l'argent ou pas. Mais la personne qui va prendre des frais, seulement s'ils font de l'argent, il va travailler plus fort, je crois, pour vraiment vous faire de l'argent. Donc, c'est des personnes, ben, je veux pas dire plus honnêtes, là. Mais moi, je trouve que c'est une façon d'éviter une certaine... certains arnaques, et puis c'est ça.
Moi, je trouve que une approche comme ça, ce qui est génial, c'est que c'est au résultat. T'sais. Fait que d'un, la personne, elle a vraiment confiance en elle, cette personne-là, là, t'sais, pour dire, moi, sinon, elle ne gagnera jamais sa vie, là, c'est parce qu'il sait là, qu'il est rentable, là. Sinon, il ne fera pas ça. Là. C'est pas maso, là. Personne ne fait ça juste pour le plaisir de pas faire d'argent. Puis moi, j'aime bien ça, en tout cas, au niveau humain, gagnant-gagnant, là. Il n'y a pas de gagnant-perdant dans cette situation. Si on perd, on perd toutes les deux. Moi, je perds, mettons, le rendement est négatif. Moi, je perds de l'argent, mais lui, il n'en fait pas. Fait que tout son temps perdu, là, c'est quand même c'est son métier. Là. Donc, je trouve ça intéressant, cette approche-là. T'sais. Puis, dans cette catégorie-là, moi, je rentre ce qu'on appelle les titres dispensés. Hein. Les titres dispensés, là, c'est pour une catégorie d'investisseurs avec soit un actif un petit peu plus important. On doit se qualifier pour avoir accès à ces produits-là et ou avec des bons revenus. Mais ce qui est le petit twitch là-dedans, là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un prospectus quand on a des fonds, des titres dispensés ou des fonds dispensés. Donc, en n'ayant pas de prospectus, c'est plus facile. Ça ouvre des portes. Ça ne veut pas dire que ça l'est. Donc, quand vous allez dans ces catégories-là de produits, soyez doublement vigilant, encore plus vigilant. C'est vraiment ça que j'ai envie de ressortir de ça. Mais moi, je pense que, tu sais, là, on est dans le podcast de day trading où on est des négociateurs. C'est qu'on... Moi, je crois beaucoup à être son propre gestionnaire. Moi, j'aime ça. le mien, être moi-même, mes choses, faire mes affaires, puis de l'apprendre, puis être en contrôle. Fait que je sais pas pour vous à la maison ou dans l'auto ou au bureau ou peu importe, c'est quoi, mais moi, j'aime bien savoir ce que je fais. Fait que c'est sûr que j'ai plus tendance à miser sur moi que sur quelqu'un d'autre. Mais des fois, on manque de temps, on peut avoir besoin de quelqu'un d'autre que soi ou de faire partie d'une équipe. Puis je trouve l'approche que la personne que tu mentionnes, François, moi, en tout cas, m'inspire beaucoup plus que beaucoup d'autres choses que j'ai vues jusqu'à présent. Très intéressant.
C'est ça. Et puis sinon, tu sais, tu dis, moi aussi, je suis comme toi, j'aime mieux gérer mes finances. Puis même si on n'est pas, des spécialistes là-dedans, maintenant, il y a tellement de bons outils. On avait parlé dans d'autres podcasts des robots conseils. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Tu rentres ton profil d'investisseur. Moi, je suis plus à risque sur ces titres-là. J'aime mieux ça. J'aime mieux cette catégorie-là. Bref, on rentre notre profil d'investisseur, puis le robot va chercher, va faire des suggestions de titres selon votre profil d'investisseur. Et puis maintenant, avec les fameux ETF, les fonds négociés en bourse qui regroupent des secteurs de plusieurs titres du même secteur, on n'a plus besoin de faire du stock picking, tu sais, choisir un titre, celui qui nous intéresse. Tu sais, si on aime le pétrole, mais on va acheter le ETF du pétrole qui regroupe plein de compagnies de pétrole. Si c'est le secteur cannabis qui nous intéresse, on va acheter l'ETF cannabis. S'il y a le secteur des banques, on va acheter le secteur financier. Fait que bref, notre argent, oui, des fois, on n'a pas le choix. Il faut le confier, comme tu dis, à des courtiers parce que raison X, Y, Z, on n'a pas le temps, tout ça. Mais quand on veut devenir maître de nos avoirs puis gérer notre propre argent, on n'a pas besoin. Puis là, c'est pas pour du day trading. Là. On parle vraiment gérer notre peut-être pour plus tard ou notre portefeuille à moyen et long terme. Mais il y a tellement des outils qui nous permettent de, excusez l'anglicisme encore, de bypasser les courtiers. Puis c'est pas gentil pour mes amis courtiers, là, mais bon, c'est les courtiers qui donnent des conseils au téléphone. C'est plus l'avenir. L'avenir est au robot conseil. Puis bref, il y a plein d'outils. On avait réécouté les podcasts qu'on a faits sur ce sujet-là. C'est très intéressant. Puis le fait de gérer nous-mêmes nos avoirs, souvent, ça nous permet d'éviter, encore là, parce que le sujet du podcast, c'est les arnaques, ça nous permet d'éviter plusieurs arnaques qu'on pourrait se faire vendre, tout simplement.
Prochaine sphère ou prochain point où il y a des possibilités, c'est ce qu'on appelle copy trading ou le trading social, où on va copier de façon automatique des trades de quelqu'un qu'on va suivre. Donc, il y a des réseaux sociaux qu'on peut, dans le fond, lier même avec notre courtier, dans le fond. Puis là, quand il va passer une ordre, l'ordre va passer dans notre compte en même temps. En soi, c'est pas un problème. Je trouve ça vraiment créatif, puis c'est hot d'être capable de s'accoter sur quelqu'un, des fois, qu'on va considérer meilleur que nous. Et je pense qu'il y a bien des gens de bonne foi là-dedans, puis tout ça, mais il y a quand même des portes à l'arnaque. Puis, tu sais, dans ces systèmes-là, c'est comment la personne, elle va se faire payer. T'sais, supposons que moi, je vous démontre dans ces réseaux-là que j'ai un compte qui est hallucinant avec un rendement capoté. Puis là, tu veux embarquer avec moi, mais je peux vous charger un montant assez important juste pour me suivre et pouvoir copier mes trades, donc automatiquement. Mais dans ces systèmes-là, ben, il y a une arnaque que moi j'ai identifiée et que je vais vous partager aujourd'hui qui est fulgurante. Moi, je trouve que c'est vraiment... ça m'a troublé quand j'ai vu ça, dans le fond. Et ça peut être vraiment facile de vous démontrer un rendement ultra performant, dans le fond. Puis je vous montre comment on procède, dans le fond. C'est que la personne qui veut faire ça, elle va ouvrir deux comptes différents avec deux pseudonymes différents. Puis ce qu'elle va faire, c'est que dans les deux comptes, elle va faire des trades miroirs opposés. Donc, si elle fait une trade à l'achat à une, elle va faire une trade à la vente à l'autre. Donc, pour cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on appelle du hedge. Elle va se hedger. Elle va, dans le fond, annuler. Fait que peu importe si le marché monte ou baisse, ça coûte zéro, là, à part le frais de courtage. Puis là, vu qu'il y a des courtiers, plus de frais, ben ça coûte plus rien, mettons. Et dans le fond, ce qui va arriver, là, il y a trois scénarios qui vont arriver possibles. T'sais. Soit que le premier scénario, ça va faire du surplace, puis il ne va rien arriver, elle va avoir manqué son coup. Mais les deux autres scénarios plus probables, c'est qu'il y a un des deux comptes qui va être vraiment fulgurant avec un rendement vraiment énorme. Puis cette personne-là, dans son trading, ça va être très agressif avec des gros risques là, pour arriver à un gros rendement. Puis de l'autre côté, l'autre compte, lui, il va avoir une perte énorme. Fait que le compte, nous, quand on regarde le réseau social, on regarde des pseudonymes, on ne les connaît pas, là, on ne fait pas de lien entre les deux. Dans le fond, le compte qui est à perte totale, on ne le regarde même pas, on ne le considère pas, mais celui qui a un rendement de fou, puis là, tu dis, hey, en 6 mois, il a fait 98 % de rendement, puis regarde, il y a un taux de, tu sais, espèce de rendement de fou. Puis là, on va, dans le fond, adhérer à son service. Fait que lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, cet individu-là? C'est qu'il développe des relations avec deux clics. Fait que là, d'un part ou de l'autre, il y en a une des deux clics qui va se mettre à faire comme « wow, c'est hallucinant », puis là, il vient de nous avoir. Mais dans les faits, ça ne durera pas nécessairement longtemps parce qu'il ne sera pas capable de maintenir ça, tu sais. Mais là, nous, on copie ses trades. Fait que dans les faits, quand on voit ça, c'est très, très rare qu'il va réussir à garder ce même rendement-là. Donc, puis même Michel Villa en parle régulièrement, je pense, dans le groupe, de dire « faites attention, quand quelqu'un a un gros rendement, les probabilités qu'il continue ça une deuxième année sont extrêmement faibles, selon les statistiques générales du marché. »
Puis pour continuer là-dedans, moi, j'ai découvert ça, voilà, un an et demi environ. On voit beaucoup ça sur le marché du Forex. Qu'est-ce que tu expliques, là? Et puis... Il y a quelqu'un qui m'a montré qu'il trade le Forex avec les amateurs de Forex. Vous connaissez toute la plateforme MT4, MetaTrader. Ben là, c'est rendu MT5, MT4, peu importe. Moi, je n'utilise pas cette plateforme-là. Mais bref, il m'a dit, regarde ça, je peux acheter et je peux vendre en même temps. Puis ça me montre deux positions différentes. Puis c'est dans le même compte. Moi, je suis avec Interactive Broker. Si j'achète, on va dire, un lot d'une paire de Forex et puis je vends un lot d'une paire de Forex, mon net est zéro. J'ai plus de position. Mais lui, il avait acheté, exemple, un lot d'une paire GJ, la livre sterling contre le yen. Et puis, en même temps, il vend un lot GJ. Fait que là, ça lui dit qu'il est long, un lot, et qu'il est short, un lot. Et puis là, quand le marché montait, il faisait, exemple, 1 000 $ avec sa position haussière, puis il perdait 1 000 $ avec sa position baissière. Là, il dit, regarde ça, je vais fermer ma position baissière. Là, il perdait 1 000 $, mais on voyait toujours le plus 1 000 $ de l'autre côté. Fait que là, il dit, le monde à cette heure sur Instagram avec MT4, et ils font juste montrer le compte qui fait de l'argent. Donc, ça résume très bien l'exemple que tu as donné, mais dans le monde du Forex, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Fait que maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un qui trade du Forex avec avec MetaTrader, c'est une très bonne plateforme, là, mais je ne vois pas l'utilité. Si on achète un lot et on revend un lot, exemple, on va parler en actions, là, si vous achetez 100 actions et vous revendez 100 actions, le net, c'est zéro. Donc, je ne comprends pas pourquoi la plateforme permet ça d'avoir une position haussière. Puis si on fait une vente à découvert de 100 actions, c'est comme deux positions différentes. Je ne vois aucune l'utilité parce que si on perd 1 000 $ et on fait 1 000 $, au bout de la ligne, c'est zéro. Donc, la seule utilité que je vois, c'est de pouvoir arnaquer le monde. Je ne dis pas que c'est pas une bonne plateforme, là. Mais bref, les arnaqueurs là, sont tous sur MT4. Ils seront pas sur d'autres plateformes parce que je ne veux pas bâcher du tout la compagnie, là. Mais toutes les arnaques que j'ai vues, puis je l'ai dit à plusieurs personnes dans la communauté, il faut tellement être prudent. Toutes les arnaques, parce qu'encore là, le podcast est sur les arnaques, toutes les arnaques que j'ai vues sur le Forex, ça s'est fait à partir de MT4. Je ne veux pas nommer de nom, on les connaît beaucoup, mais bref, à chaque fois que vous voyez quelqu'un sur Instagram, c'est drôle, ils ont tous 20 ans et ils sont tous sur Instagram. Encore là, il y a beaucoup de bons traders qui ont 20 ans. Mais là, je dirais que 90 % des arnaqueurs ont entre 20 et 25 ans. Ils sont sur Instagram, ça transige avec MT4, ça fait des fortunes, mais ça reste encore dans le sous-sol de leurs parents, puis ça se promène en Honda Civic. Mais ça fait des 10-15 000 par jour. Donc, c'est facile de trouver des arnaques là, avec ton histoire de deux comptes. Là. C'est ridicule, surtout dans le côté Forex.
Là, dans le même compte.
Oui, dans le même compte en plus.
Toi, tu me dis, c'est fou. Comme tu dis, dans le fond, tu ouvres 50 ordres, puis tu en ouvres 50 que tu achètes, puis 50 que tu vends. Tu attends une couple d'heures, tu fermes toutes celles qui sont en perte, tu laisses juste celles qui sont ouvertes. Fait que là, tu as 50 ordres ouvertes à 1 000$ de profit. Mmh. Puis là, tu dis, garde, depuis un matin, ça fait rien que 3 heures, regardez, je suis actif. Puis là, tu fais une vidéo. Puis là, tu es capable de démontrer à court terme, en tout cas, que tu as eu un rendement. Donc, oui, effectivement. Tu sais, puis en tout cas, pour ton information, François, MetaTrader ou MT4 ou MT5, c'est quand même une super bonne plateforme, super stable et tout ça. Mais c'est le courtier qui permet ça parce qu'il y a des courtiers qui ils bloquent ça. Tu sais, dans MT4, il y en a qui ne vont pas te laisser le faire, le hedging comme ça. Fait que le courtier le permet.
Dans le fond, la plateforme le permet, mais c'est si le courtier, lui, le permet ou pas. Ça fait que, dans le fond, le MT4, exact. C'est juste la plateforme. Ça dépend chez le courtier qu'on y va. Donc, si on brancherait un MT4 chez Interactive Broker, ça serait impossible de faire ça.
Il ne te laissera pas le faire.
Non, ouais. C'est ça. OK.
C'est ça. Ça va faire, comme tu dis, ça va liquider ta position quand tu vas le faire. Fait que, puis moi, ouais, c'est ça. Fait que, mais tout ça pour dire que c'est fou, tu sais, la créativité, puis même là, tu l'expliques, puis je l'avais, pour moi, ça vient, c'est clair, là, du crime. C'est vraiment, tu sais, c'est ridicule, là, mais à quelque part, il y a des gens qui peuvent faire ça. Donc, c'est ça. Fait que si quelqu'un vous montre ça du tap à l'œil une fois, comme ça, OK, mais je veux voir plus. Mais ça dépend toujours ce qu'il veut vous vendre aussi, là. Puis souvent, il y a quelque chose à vendre avec ça, là. C'est pas juste. Juste pour flasher, là. Puis, c'est une. En tout cas, c'est une belle description d'une autre façon. Ce qui m'amène au prochain sujet, c'est un sujet délicat parce que c'est les signaux de trading. Donc, faut faire attention à ça. Je sais que François, lui, il y en a deux services de signaux de trading. C'est ça. Faut demander, moi, je trouve, plus l'historique de la personne. Ça fait combien de temps qu'elle est là? À quel point elle est établie? Comme j'expliquais dans, je sais pas si c'était l'autre épisode d'avant, mais en tout cas, François, moi, ça m'a pris un an, tu sais, avant de dire que j'y accorde ma confiance. Moi, j'accorde pas la confiance automatiquement à quelqu'un facilement. En tout cas, il y a un travail, on doit s'apprivoiser, c'est comme un couple, là, tu sais, on va se découvrir, puis à un moment donné, on fait confiance ou pas. Et à un moment donné, c'est sûr qu'il y a un acte de foi, là, si vous voulez le faire. Moi, les signaux, de la façon que je le vois, puis de la façon que je l'ai approché, autant avec François qu'un autre, c'est que je le prends aussi comme un cours. C'est de voir, OK, tu vas identifier quelqu'un qui t'inspire, tu vas faire ta vérification diligente. Moi, l'exemple, si François m'inspire beaucoup, moi, j'ai fait beaucoup de Forex. Fait que là, j'étais curieux de voir comment François tradait le Forex. Fait que là, j'ai suivi son signal de Forex. Fait que là, j'ai regardé. Puis à un moment donné, OK, c'est ça son style. J'ai comme compris exactement le style de François. Puis après ça, j'ai vu les similitudes puis les différences avec moi. Puis ça m'a challengé, dans le fond. Puis il y a des choses que ça m'a permis de devenir meilleur. Il y a des choses que ça a confirmé qui ne me ressemblaient pas. Donc, je l'ai vu comme ça. Après ça, au niveau des actions, là, le club des initiés, par contre, c'est ça, c'est que c'est pas juste des signaux non plus, c'est qu'il y a vraiment de la formation, il y a du live. François, il donne énormément de son savoir. Donc, ces fameux signaux-là, est-ce qu'ils viennent juste dans Telegram avec rien d'autre ou, dans le fond, ça vient avec un package de d'autres choses, t'sais? Fait que le gain comme ça, votre investissement, parce que souvent c'est un coût par mois, vous pouvez l'évaluer en disant est-ce que ça vaut ce montant-là? Pour moi, dans l'apprentissage de tout ça. Parce que l'objectif, c'est de suivre quelqu'un, mais l'objectif ultime, c'est d'être capable de le faire soi-même. Parce que juste suivre quelqu'un, la personne, elle disparaît. Tu n'es pas plus capable de trader après, là. Tu sais, si tu as juste suivi aveuglément des entrées, moi, j'y crois pas à ça. Je crois vraiment à l'approche pour l'apprentissage.
Pour revenir aux fameux signaux, les alertes, là, j'essaie d'être prudent parce que, comme tu dis, j'offre un service de ça, mais je vais parler en général. Puis ça inclut mon service aussi. Là. Puis je ne veux pas faire de publicité là-dessus. Je veux simplement dire, quand vous vous abonnez à des services de signaux, c'est très important, comme tu as dit, Patrick, de faire ses devoirs, ses due diligence, savoir c'est qui cette personne-là, c'est quoi son background, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait comme métier. Et puis, quand on s'abonne à un service de signaux, il y en a des très bons, il y en a des moins bons, il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui ne sont pas honnêtes. L'important, moi, je trouve que quand vous abonnez à un service de signaux, que ce soit moi ou n'importe qui, c'est pas seulement de dire j'achète là ou je vends là. Il faut que ça vienne, comme Patrick dit, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est apprendre à pêcher, montrer au monde apprendre à pêcher. Donc, quand j'envoie jamais anyway de toute façon de achète là, vends là, c'est pas ça mon but. Moi, je regarde, j'envoie souvent une analyse, un graphique, puis qu'est-ce que je vois d'intéressant dans le graphique. Après ça, la personne prend des décisions à partir de ça. Et puis après ça, ben, on discute dans le chatroom live des différentes analyses que j'ai faites, dont j'explique le pourquoi. Donc, si vous abonnez un service d'alerte qui dit « achète-là, vends-là », c'est correct, ça peut répondre à un certain besoin, mais moi, j'aime mieux comprendre pourquoi cette personne-là dit, fait des recommandations, exemple, sur un titre, et puis c'est ça. Mais de toute façon, moi, je ne veux pas faire de recommandations, je veux publier des alertes, des graphiques, et puis le monde qui prenne leurs décisions, mais j'aime bien me faire challenger. J'aime ça que le monde pose des questions, pourquoi? Donc, que ce soit pour le Forex, que ce soit pour le marché des actions, je réponds aux questions, j'envoie les graphiques, j'explique pourquoi, donc... C'est ça. Si vous voulez vous abonner à un service d'alerte ou de graphique, informez-vous sur la personne. Puis moi, c'est ça. Quand j'ai parti ça, le club des initiés, comme on dit, j'ai baissé mes culottes à terre. C'est souvent une question récurrente. T'es qui, toi? Puis on te connaît pas. Mais je sais que sur les réseaux, ça fait peut-être 2-3 ans que je suis sur les réseaux, mais Fuji existait avant, là, sur le parquet et puis dans les milieux financiers. Et puis, j'ai flashé mon PNL, j'ai flashé mon rendement, j'ai flashé mon salaire des 12 dernières années. Donc, avant d'offrir des services, j'étais négociateur temps plein, puis je suis encore négociateur temps plein. J'avais pas de revenus autres que le trading, à part, il y en a qui vont dire « t'avais d'autres travails ». Non, j'avais pas d'autres travails. T'sais, comme j'explique beaucoup, j'étais emballeur chez Metro, puis je travaillais au Pacini à 18 ans. Je ne vis pas de ces rentes-là. Donc, j'ai été négociateur toute ma vie. Puis où je veux m'en venir, c'est que, c'est ça, avant de vendre un service d'alerte, j'étais négociateur, puis j'ai montré, si vous voulez le savoir, encore là, j'invite le monde à venir dans la communauté des trading. Il y a un beau chiffrier Excel qui montre mon salaire des 12 dernières années avant d'offrir un service. Donc, rendu là, je ne pouvais pas faire plus. Donc, le monde, il me posait des questions. J'ai expliqué mon salaire. J'ai démontré mon salaire avec les revenus T4 du gouvernement. On ne peut pas trop trafiquer ça. Donc, on referme la parenthèse. Mais bref, si vous voulez vous abonner à des services de signaux, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Informez-vous sur c'est qui ces personnes-là. Et puis, c'est pas des, comme je dis souvent, moi, c'est pas un contrat de mariage. Essayez-le un mois. Mm-hmm. Et puis, si vous n'aimez pas ça, vous cancellez le service. Mais l'important, comme Patrick dit, c'est d'apprendre à trader. C'est pas nécessairement copier-coller. C'est d'apprendre à trader avec ces services d'analyse ou de signaux-là.
C'est ça. Mais le point de l'essayer, je trouve ça bien. Tu sais, c'est comme, moi, je me dis des fois, quelqu'un qui prend un cours de guitare à chaque semaine, ben, ça coûte plus cher que ça, des fois, qu'un signal. Fait que tu as le droit de dire, ben, je vais l'essayer un mois, deux mois, je vais voir. Si ça ne te colle pas à la peau, ça ne marche pas, ça ne te ressemble pas. Si les signaux y arrivent aussi au mauvais moment dans ta journée, là, tout le temps quand tu travailles, ben, tu as le droit d'arrêter. Donc, tu as le droit de les essayer, mais il faut y aller prudemment. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement qu'on va avoir un quatrième épisode parce que ça a l'air qu'on a plus de stock que de temps. C'est merveilleux. C'est un heureux problème. On va arrêter là pour aujourd'hui encore une fois. En tout cas, si vous aimez ça, moi, je suis déjà impatient de continuer. Dans le prochain épisode, on va couvrir encore quelques points, mais on va aussi regarder un petit peu plus en profondeur comment se protéger, comment repérer l'arnaque par soi-même, comment développer son sens critique. C'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Donc, jusque-là, ben, je vais vous souhaiter d'être prudent et d'être vigilant dans vos démarches, dans votre trading. Je vous souhaiter un très grand succès d'ici le prochain épisode. À très bientôt, chers traders!